Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le 335e numéro de Mélomanie et cette période précédant Noël et les fêtes dites de fin d'année nous offre une profusion de concerts en tout genre à Toulouse et autour. Les traditionnels concerts de Noël, bien sûr, avant ceux du Nouvel An, et puis d'autres propositions que présentent les nombreuses saisons en cours. Ce jeudi 11 décembre, l'Orchestre National du Capitole se produit à la Halle au Grain avec la mezzo-soprano Marianne Crebassa. Le lundi 15 décembre, le cycle des grands interprètes accueille le duo de guitaristes Thibaut Garcia-Antoine Morinière pour leur transcription des variations Goldberg. Mardi 16, le concert de l'Hôtel Dieu donne son programme Noël napolitain à l'église Saint-Jérôme de Toulouse, à l'invitation de la saison des Arts Renaissants. Et concernant ces fameux programmes et concerts de Noël, la Scola Saint-Cernin donne le sien samedi 13 décembre à la basilique du même nom, et c'est un Noël anglais qui nous y attend. Ça nous vaut le plaisir de recevoir à Mélomanie Jean Percy, le fondateur et directeur artistique de la Scola Saint-Cernin, également producteur de l'excellente émission Point d'Orgue sur Radio Présence. À ses côtés, toujours fidèle au poste, mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voile du Midi. Nous allons tout de suite revenir avec Serge sur l'abondante actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à vous deux, ravis de vous retrouver dans le grand studio de Radio Présence. Retour pour commencer sur le dernier concert en date de la saison des Clés de Saint-Pierre. Il a eu lieu le lundi 1er décembre et il avait pour sous-titre Quintette en variation. Deux œuvres étaient au programme et Serge va se faire un plaisir de nous rappeler lesquelles, ainsi que les noms des cinq musiciens que nous avons entendus ce soir-là à Saint-Pierre-des-Cuisines.
Alors, c'est vraiment d'un concert contraste. Parce que les deux œuvres n'avaient rien à voir entre elles. Hein. Et donc, la première, c'était eh bien, les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, mais dans une transcription pour violon, alto et contrebasse réalisée par le contrebassiste macédonien Georgi Sinkievski. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte à l'écouter que c'était bien un contrebassiste qui avait réalisé la transcription, étant donné l'exigence qu'il a demandé à la contrebasse. Et alors, les trois musiciens qui ont joué ces variations, c'est Guillaume Boudran au violon, Audrey Leclerc à l'alto et Pierre Ecquet à la contrebasse, qui en même temps présentait l'œuvre. Ça a été vraiment une belle présentation avec quelque chose d'original, avec tout d'abord l'impressionnante cohésion des trois instruments. C'était magnifique. Chacun apportait sa couleur, mais il y avait une cohésion incroyable. On avait l'impression d'une discussion à trois. Et ça a été un beau moment avec la virtuosité exigée. Et en particulier pour la contrebasse. Ce que le transcripteur demande à la contrebasse, c'est vraiment une extrême volubilité que Pierre Ecquet a réalisé vraiment avec panache, on peut dire. Donc ça, c'était la première œuvre. Et puis la deuxième œuvre, eh bien, les trois instrumentistes à cordes étaient rejoints par Louis Seguin, oboïste, et Laurence Perry, clarinettiste, deux instrumentistes qu'on connaît très bien de l'Orchestre National du Capitole et qu'on admire chaque fois à tous les concerts auxquels ils participent. Et là, il s'agissait d'une œuvre complètement différente, puisqu'il s'agissait du quintet en sol mineur pour hautbois, clarinette, violon, alto et contrebasse, donc, de Sergueï Prokofiev. Une œuvre sarcastique, dissonante, l'une des œuvres, comme l'a indiqué d'ailleurs, je crois, Pierre Ecquet, qu'il s'agissait d'une des œuvres les plus dissonantes de Prokofiev. Donc, le thème de l'œuvre, c'était le thème du cirque, puisqu'elle avait été composée à la commande d'un chorégraphe, Boris Romanov, pour accompagner un ballet en six tableaux qui avait pour titre Trapèze. Donc, c'était vraiment le domaine du cirque. Mais quel cirque, hein ? À certains moments, c'est d'une agitation complètement débridée, avec des propos grinçants qui se succèdent dans une sorte d'ironie permanente, hein, que les musiciens ont maniée avec habileté et avec talent. Ça a été vraiment un grand succès public, et tel qu'ils ont dû reprendre même le mouvement final du quintet de Prokofiev. Donc ça a été un très beau moment, très contrasté, mais avec des aspects musicaux totalement complémentaires.
Oui, bah, c'était un beau concert découverte, moi, j'ai trouvé. D'abord, cette version, effectivement, des variations Goldberg en trio avec contrebasse. Et puis, ce quintet de Serge Prokofiev, voici un extrait des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach dans la version arrangée pour violon, alto et contrebasse de Georgi Sintsevski. Il s'agit de l'aria da capo. L'aria da capo des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach dans la version arrangée pour violon, alto et contrebasse de Georgi Sintsevski. Trois jours plus tard, après ce concert des Clés de Saint-Pierre, le jeudi 4 décembre, on retrouvait les musiciens de l'Orchestre National du Capitole au grand complet, ou presque, aux côtés de Renaud Capuçon, sous la direction de Ryan Bancroft, à l'occasion d'un concert très attendu à la Halle au Grain. Un chef américain pour un programme très américain, Serge, et très original aussi.
Absolument, un programme, disons, franco-américain, mais surtout américain, avec une majorité d'œuvres. Sur les quatre œuvres données, il y en avait trois qui étaient des œuvres de compositeurs américains, et vraiment des choses extrêmement originales. Bon, il y en a une en particulier sur laquelle je vais revenir, mais ce n'est pas celle qui ouvrait le concert, heureusement d'ailleurs.
Oui.
Il s'agissait, pour ouvrir le concert, de l'œuvre qui s'appelle Entr'acte de la compositrice américaine, récente, puisqu'elle est née en 1982, hein, compositrice américaine Caroline Shaw. Alors, c'est une œuvre que nous avions déjà entendue dans sa version originale pour Quatuor à cordes lors de la soirée du 13 octobre, la soirée des
Clés de Saint-Pierre.
Des Clés de Saint-Pierre, oui. Même, jouée par un quatuor. Donc, une œuvre inspirée d'ailleurs d'un mouvement de quatuor de Haydn qui était joué ce soir-là. Mais le 4 décembre, nous avons entendu la version pour orchestre à cordes, alors avec des sonorités étranges que l'on avait déjà entendues dans la version quatuor, inquiétantes avec. Par moments, une sorte d'atonalisme, hein, on a l'impression qu'on fuit la tonalité, des frappes d'archer sur les bois des instruments, des pizzicati décalés d'un instrument à l'autre. Enfin, c'est très particulier comme musique, mais avec des pratiques très 21e siècle. L'œuvre suivante, c'est également une transcription, hein, puisqu'il s'agit de la sonate en sol majeur pour violon et piano composée par Ravel, joué cette fois dans une version orchestrée par un compositeur français du nom de Yann Marès, orchestré avec un grand orchestre. Hein. Alors, avec la particularité qu'il a laissé au violon la partition originale. Le violon joue la partition de la sonate et l'orchestre reprend la partition du piano, largement orchestrée, avec de belles couleurs, des couleurs jazzistiques d'ailleurs,
oui.
Hein, intéressantes, avec... une certaine ironie dans le mouvement intitulé blues, hein, c'est vraiment caractéristique. On sait que Ravel avait été influencé par le jazz américain lors de sa visite. Et le mouvement final, alors qu'il s'achève sur une course folle, on peut dire frénétique. Et tout cela a été parfaitement mené par Renaud Capuçon, évidemment. Qui connaît Ravel sur le bout du doigt,
qui a déjà
évidemment,
joué cette version aussi,
qui a déjà joué plusieurs fois, j'imagine, la version originale de cette sonate, et là,
et même celle-ci.
Qui a vraiment soutenu l'assaut de l'orchestre, parce que l'orchestre est très sonore, hein, évidemment, un peu plus qu'un simple piano. Il a eu beaucoup de succès, un succès tout à fait mérité, tellement acclamé qu'il a offert un bis, alors un bis rare. C'est une étude pour violon composée par Richard Strauss, inspirée de son opéra Daphné.
Renaud Capuçon est un grand admirateur de Richard Strauss et il a enregistré cette version.
Oui. Donc Daphné, c'était vraiment très intéressant. Et puis, dans la deuxième partie de soirée, là aussi, contraste absolu, puisque la première œuvre du compositeur américain John Cage, pour le situer, il est mort en 1992, s'intitule 4 minutes 33. Alors, certains ont dit que c'était 4 minutes 33 secondes de silence, et c'est vrai, c'est un silence. Les musiciens de l'orchestre, réunis au complet d'ailleurs, pour, si je puis dire, jouer, entre guillemets, cette œuvre, c'était très particulier, mais John Cage a proclamé que le silence est une vraie note. Et donc, pour lui, l'œuvre, c'est tout simplement les bruits qui entourent l'orchestre, les bruits de la salle, les bruits divers, et c'est ça l'œuvre. Alors, on a vu arriver Ryan Bancroft avec un chronomètre sur son pupitre pour jouer exactement la durée.
Il a respecté la partition, c'est ce
qu'il
dit.
Il a respecté la partition, alors que les partitions des musiciens étaient des feuilles blanches que l'on pouvait voir. C'est très particulier. Et le public a joué le jeu. À part quelques rares toux, mais plutôt moins que d'habitude d'ailleurs, eh bien, le temps s'est écoulé avec sérénité et c'est arrivé au bout. Donc, le chef restant les bras le long du corps, face à son orchestre, les musiciens immobiles. Donc, c'était vraiment un très beau moment, un moment très original. Et puis, alors, le contraste avec l'œuvre suivante, on peut dire qu'il était explosif. Elle avait pour titre « Harmonie lyrique », c'est-à-dire « L'étude de l'harmonie ». Elle est signée du compositeur américain, lui aussi, John Adams. Et c'est une composition qui a été écrite en 1985, qui est également le titre d'un ouvrage d'Arnold Schoenberg auquel elle rend hommage. C'est une œuvre très brillante, qui demande un très grand orchestre avec de nombreuses percussions, qui cette fois sont utilisées, contrairement à précédemment. C'est une œuvre très touchante, en ce sens qu'elle est intense, et coloré, vraiment très coloré, avec une espèce de succession de tutti cataclysmiques au début, et puis avec en particulier à la fin du premier mouvement, un magnifique solo de cors, et puis un peu plus tard, il y aura un beau solo de trompette, magnifiquement joué d'ailleurs par les deux solistes de l'orchestre. Alors, le compositeur a dit qu'il a été inspiré par un rêve qu'il avait fait, où il aperçut un pétrolier à la surface de l'eau qui se tourne brusquement vers le ciel et qui décolle comme une fusée Saturne V. C'est exactement ce qu'a écrit le compositeur. Et puis, il y a un mouvement central qui s'intitule « Les blessures d'Amfortas ». On voit que c'est relatif à Wagner et au Parsifal. Et donc, voilà, c'est vraiment un beau moment, une belle pièce qui s'achève par un dernier mouvement plein de rage. L'impression d'une rage qui explose. L'ovation qui a suivi a ramené Bancroft, le chef, plusieurs fois sur le podium, où il n'a pas cessé de féliciter les musiciens qui, à leur tour, l'ont applaudi. Preuve que les choses se sont très bien passées. Ben, c'est un chef qui est habitué
maintenant. On commence à le connaître bien, puisqu'il est venu, je sais pas, 4 ou 5 fois déjà. Je pense,
il était récemment là pour remplacer Tarmo Peltokoski dans le dernier concert. Hein,
donc, déjà, 3
donc,
ans qu'on le voit.
Voilà, c'est un invité de marque.
Oui, et qu'on reverra sans aucun doute.
Certainement.
Alors, j'ai pensé à vous proposer les 4 minutes 33 de silence de John Cage pour illustrer le programme de ce concert. Puis je me suis ravisé en me disant que c'était peut-être pas très radiophonique.
Non.
Blague à part, je vous propose de réécouter un extrait de la sonate pour violon de Maurice Ravel joué par Renaud Capuçon dans l'orchestration de Yann Marès. La sonate pour violon de Maurice Ravel, jouée par Renaud Capuçon dans la version orchestrée par Yann Maretz. Prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, jeudi 11 décembre à 20h à la Halle aux Grains, avec la mezzo-soprano française Marianne Crebassa, dirigée par le chef espagnol Roberto Forés Vesés. Nous allons vous le présenter en seconde partie d'émission. Retour maintenant sur la 10e édition de Musique au Palais, qui s'est tenue ce week-end, les 6 et 7 décembre, dans le cadre toujours magnifique du Palais Niel, plus précisément dans le grand salon du rez-de-chaussée, un lieu à l'acoustique exceptionnelle, parfait pour la musique de chambre. Et pour les 10 ans du festival, son directeur artistique, Serge Krichewski, avait conçu une très belle programmation se présentant sous la forme d'un tour d'Europe des villes musiciennes. Il y avait 3 concerts chaque après-midi, samedi et dimanche, dédiés à des compositeurs ayant vécu et créé dans l'une de ces villes. Serge, nous avons assisté tous les deux à ceux du samedi, sous-titrés Paris, Budapest et Prague, et on s'est vraiment régalé.
Ah, tout à fait. Non seulement par le choix des œuvres, mais par la qualité des interprétations. C'était vraiment du top niveau. Hein. Avec, pour Paris, donc, 3 œuvres de compositeurs très différents, là encore, avec tout d'abord Francis Poulenc, sa sonate pour clarinette et piano, avec un clarinettiste de haut vol, vraiment magnifique, qui est Lilian Lefebvre, qu'on connaît bien, hein, et au piano, donc, Vincent Martinet, que l'on connaît bien aussi. Donc,
pianiste toulousain et grand ami de Lilian Lefebvre, je crois qu'ils sont connus au conservatoire à Paris.
Oui, non, c'était vraiment un très beau moment avec à la fois virtuosité, couleur, expression, donc, et avec cette espèce de folie qu'il y a toujours chez Francis Poulenc, folie qui est toujours mêlée à du drame. Et puis la deuxième œuvre était d'Henri Dutilleux, compositeur un peu plus rare que Poulenc et Ravel qui suivra, sa sonate pour flûte et piano, alors avec la flûtiste Célia Lambert-Morat, excellente flûtiste, et le pianiste Pierre Venissac. Beau moment, très chantant jusqu'au vertige du dernier mouvement. Et enfin, troisième œuvre de cette escale à Paris, c'était le trio en la mineur de Maurice Ravel, une pure merveille que l'œuvre, hein, est magnifiquement interprétée avec vitalité, avec à la fois nostalgie et dramatisme, avec ce rythme très original du pantoum, du deuxième mouvement pantoum, avec 3 musiciens formidables qui étaient Vincent Martinet de nouveau au piano, Maria Strudulo au violon et Nicolas Saint-Yves, violoncelle. Un violoncelle aux sonorités dorées, donc en quelque sorte.
La violoniste et la super soliste de l'Orchestre de l'Opéra de Bordeaux. Tout de même. Nicolas Saint-Yves est un violoncelliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Bon, ça les classe un peu quand même.
Hein. Oui, oui, exactement.
Et Vincent Martinet était magnifique au piano.
Formidable. Magnifique, oui, oui, absolument. Ça, c'était la première escale, en quelque sorte. La deuxième, c'était Budapest, avec une série de 4 compositeurs différents. Ça s'ouvrait sur du Béla Bartok au piano, avec cette folie que représente l'Allegro Barbaro, qui était enchaîné à la suite opus 14, également de Bartok, et qui était joué par Pierre Venissac, avec une espèce de violence assumée, hein, pour les 2 œuvres en question, qu'il a d'ailleurs enchaîné avec les 3 pièces extraites des 7 pièces opus 11 de Zoltán Kodály, qu'il a joué lui aussi, dans le même esprit, hein, de violence et de presque de sauvagerie. Ensuite, nous avons eu droit à une œuvre du compositeur peut-être le moins joué de la série, qui est Ernest Dohnányi, sa sonate pour violon et piano, également avec Pierre Venissac Et donc, Félix Cohen, un jeune violoniste. Donc,
Toulousain qui est actuellement au conservatoire de Paris, CNSM de Paris.
C'est ça. Et donc, qui évoque un peu Brahms, hein, en quelque
Alors,
sorte.
Alors, il y avait que le troisième mouvement.
Oui, le troisième mouvement, pièce, exactement. Hein. Vivace assai, exactement. Très bien joué. Et suivi par peut-être le plus célèbre des compositeurs hongrois, mais qui est un peu détaché de la Hongrie, puisque c'est Franz Liszt, qui a beaucoup exercé dans toute l'Europe. Y compris à Toulouse, où il a donné un récital.
Deux fois il a joué à Toulouse.
Deux fois.
Oui.
Et il a tenu à jouer une deuxième fois, gratuitement, pour les gens pauvres de la ville.
Exact.
Ce qui a été joué, c'était la Rhapsodie hongroise numéro 11, par le pianiste qu'on a déjà vu assez souvent.
Oui, oui. Grand amateur, mais formidable.
Grand amateur, François Schwarzentruber, et qu'il a joué à la fois avec virtuosité, mais on le voyait avec un bonheur,
ah oui, alors
un
lui,
plaisir
il,
absolu.
Il est sur une autre planète quand il joue.
Exactement. Mais
et c'est communicatif.
Vraiment très intéressant. Et puis, l'escale s'est achevée par une nouvelle œuvre de Béla Bartók, alors une œuvre très élaborée, qui s'appelle Contraste. C'est un trio, hein, avec Maria Stridulo au violon, Lilian Lefebvre à la clarinette et Vincent Martinet au piano. Ces contrastes, il y a trois mouvements. Très violent, là aussi, des œuvres basées sur des thèmes de musique populaire, hein, de musique folklorique. Donc, ça a été une très belle conclusion pour cette escale à Budapest. Et enfin, la toute dernière escale de l'après-midi, c'était Prague, avec tout d'abord du Josef Suk. Le titre, c'est « Méditation sur un vieux choral bohémien ». Et c'était joué par un quatuor magnifique, je dois dire, qui a été la révélation pour ceux qui me concernent, mais je crois pour tout le monde, qui s'appelle le quatuor Métamorphose, grand, grand quatuor sur lequel il va falloir compter, une belle exécution, à la fois homogène, colorée, avec l'individualité de chacun qui apparaît tout de même, une intensité phénoménale, jeu intense et raffiné pour cette pièce de Josef Suk, qu'ils ont enchaîné avec le quatuor à cordes numéro 1 de Janáček. Alors ça, c'est une pure merveille que ce quatuor, hein, qui est une œuvre absolument géniale, pleine d'émotions. C'est une espèce de drame permanent, avec déploration, cris de douleur par moment. Et les quatre musiciens se sont impliqués dans cette œuvre. On avait l'impression que leur vie en dépendait, qu'ils jouaient ça avec une telle intensité que c'était formidable.
Vraiment,
ça a été un moment exceptionnel. Je crois peut-être l'apothéose de toute
oui,
la...
Oui,
bah
alors on les a
première.
Réentendus le lendemain dans le quatuor de Ravel et c'était tout aussi magnifique.
Voilà.
Enfin, moi, je mettrais bien une pièce dessus pour dire que c'est peut-être les nouveaux Modigliani.
Voilà, exactement. Oui.
Je les crois vraiment promis à un grand avenir et je suis persuadé qu'on les réentendra dans les années à venir à Toulouse. Ce sont de jeunes musiciens.
Mais de grands musiciens déjà, hein. Et donc, à la suite, c'était du Antonín Dvořák. Alors, ils ont joué un duo pour violoncelle et piano qui s'appelle Klid et qui signifie « Dans les bois silencieux ». Alors là, c'était tout à fait apaisant, avec le violoncelle de nouveau de Nicolas Saint-Yves et au piano de nouveau Vincent Martinet. Donc, un duo formidable. Et enfin, la dernière œuvre dans cette escale à Prague, c'était de Smetana, Bedřich Smetana, son trio, opus 15, avec les trois habituels, Maria Stridulo au violon, Nicolas Saint-Yves au violoncelle et Vincent Martinet au piano, avec cette espèce de lyrisme et d'héroïsme par moments intense dans cette musique. Donc un très beau moment pour cette troisième escale.
Voilà, alors je vais dire rapidement quelques mots sur les concerts du dimanche parce qu'on n'a pas le temps de trop développer. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais du quatuor Métamorphose qui nous a joué un sublime quatuor de Ravel pour conclure ce festival 2025 de musique au Palais. Je salue aussi la très belle partita numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, jouée par le jeune pianiste toulousain Léo-Maxime Fabrice, qui est au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Denis Pascal. Je salue aussi la prestation du même Léo-Maxime Fabrice avec l'altiste Sixtine Le Goff, autre jeune musicienne toulousaine, dans les 4 Märchenbilder de Robert Schumann. On a retrouvé François Schwarzentruber qui a remarquablement joué la fantaisie Köchel 475 de Mozart. On l'a réentendu Ariel Sirat, un pianiste grand amateur lui aussi, excellent, qu'on a déjà vu les années précédentes. Il a joué 3 des romances sans paroles de Mendelssohn. Et puis on a découvert un formidable jeune ténor, formé lui aussi au Conservatoire de Toulouse, Arthur Perrault, qui a chanté magnifiquement des extraits du Voyage d'hiver de Schubert, des extraits du cycle Dichterliebe de Schumann et des mélodies de Fauré, Chausson, Sévrac, Ravel et Reynaldo Hahn, très bien accompagné par l'excellent Éloise Urbain au piano. Pour conclure ce retour sur les concerts du 10e Festival de musique au Palais, nous allons écouter un extrait de la sonate pour clarinette et piano de Poulenc dans la version du remarquable duo Lilian Lefebvre-Vincent Martinet. La jolie sonate pour clarinette et piano de Francis Poulenc dans la version du duo Lilian Lefebvre-Vincent Martinet, une des œuvres qui était au programme du concert Paris en ouverture de la 10e édition de Musique au Palais. Très réussie cette édition anniversaire avec une belle fréquentation, notamment le dimanche où les trois concerts affichaient complets ou presque. Voilà pour ce retour arrière et cette première partie d'émission. Une courte virgule musicale avant de retrouver dans quelques secondes Serge Chosy et Jean Percy, notre invité d'honneur, pour l'agenda de Mélomanie. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie qui va être copieux lui aussi et nous allons le commencer en compagnie de Jean Percy pour évoquer avec lui le concert de Noël que donne la Scola Saint-Cernin avec un programme de Noël anglais samedi 13 décembre à 20h30 à la Basilique Saint-Cernin bien sûr. Jean Percy, je l'ai dit en introduction, vous êtes le fondateur et le directeur artistique de la Scola et pour ce concert je crois que nous allons entendre les quatre chœurs qu'elle regroupe. C'est le moment de nous présenter chacun d'entre eux et ceux et celles qui les dirigent.
Eh bien, tout simplement, les quatre chœurs, effectivement, vont se produire. Alors, un chœur grégorien, dirigé par Clarisse Chantelot, qui est passé par le CNSM de Paris, la cathédrale Notre-Dame de Paris, et qui est venu s'établir ici pour notre plus grand plaisir, qui va diriger quelques Noël traditionnels grégoriens. Alors, le grégorien, c'est un petit peu la caution universelle. On a dit Noël anglais, mais évidemment, le grégorien a traversé la Manche et est également encore aujourd'hui beaucoup chanté en Angleterre. Et donc, ça nous permet d'entendre un répertoire tout à fait spécifique qui se rapporte à Noël. Ensuite, nous aurons la maîtrise composée des enfants de l'école Saint-Joseph, la salle, notre partenaire, dirigée par Cécile Capomacio. Là, on aura des petites friandises de Britten et de Rutter, de très, très beaux répertoires typiquement britanniques là aussi. Un petit extrait d'une fusion entre le savoir-faire britannique et le grégorien, Veni Veni Emmanuel, harmonisé par Philippe Lawson. Ça sera dirigé par Mathieu Duboc, le chef du chœur d'homme. Et puis, on aura une petite transition musicale qui sera faite avec l'orgue et le hautbois sur les suites des feux d'artifice royaux de Handel.
Les fireworks.
Tout à fait, et qui là aussi sont... Alors, on va pas faire l'entièreté de la suite, mais seulement quelques danses pour pouvoir nous mettre dans le bain de la grande œuvre qui va conclure ce concert, qui seront tous les chœurs de la première partie du Messie de Handel. C'est une première partie qui parle de tout ce qui est la naissance du Christ, et on va y ajouter à cela l'Alléluia et le Amen final de cet oratorio. Ça sera là, alors là, une fusion d'un petit peu tout le monde. Vous aurez la maîtrise et le cœur d'homme pour certains des chœurs, et le grand chœur que je dirigerai sur le reste de l'œuvre. Donc voilà, un peu tout le savoir-faire de la Scola réuni en un seul concert.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est l'occasion de mettre en valeur, lors d'un même concert, tous les chœurs de la Scola Saint-Sernin et de montrer le travail qu'ils accomplissent. Alors, c'est pas une revue d'effectifs parce que ça fait un peu militaire, mais en tout cas pour les gens qui seront présents, ben, vous allez pouvoir montrer ce que vous disiez, tout votre savoir-faire et toute la diversité de votre savoir-faire.
Alors l'objectif, c'est effectivement de traverser les siècles, c'est pour ça qu'on parle du grégorien jusqu'à la musique de John Rutter et Philip Lawson, qui sont peut-être les musiques les plus récentes, et de passer bien sûr par la magnifique musique baroque qu'ont connu les Anglais sous la plume de Handel. Et donc ça nous permet, là aussi, ça permet aux auditeurs de se faire une idée de toute cette culture britannique qui, il faut le dire, hein, depuis des siècles, perdure, soit dans cette façon de chanter, on pense par exemple aux offices des Evensongs, ou tout simplement à ces carols britanniques, cette façon de chanter, on pense naturellement au chœur du King's College de Cambridge, avec ce fameux concert retranscrit par la BBC. Il y a toujours cette espèce de folklore, mais c'est pas du tout péjoratif, hein, mais de folklore anglais,
c'est typique.
Bah, qui nous ramène à un espèce de rêve d'enfant, en fait, et qui nous font toujours se replonger dans ce moment merveilleux qu'est Noël en musique.
Alors nous allons regarder un peu plus dans le détail peut-être le programme de Noël anglais avec vous, mais avant ça je vais vous proposer un premier extrait. Dans ce concert, il y a la première partie du Messie de Handel, vous l'avez dit. Nous allons écouter un des chœurs les plus célèbres de cette œuvre, très célèbre en elle-même, « For unto us a child is born ». To us a child is born, chœur célèbre de la première partie du non moins célèbre Messie de Handel, donc au programme de votre concert de Noël anglais ce samedi 13 décembre à 20h30 à la Basilique Saint-Sernin, avec les quatre chœurs de la Scola Cantorum de Saint-Sernin, je crois que c'est le nom exact, c'est ça. Vous allez être accompagné à l'orgue. Qui est l'organiste qui va vous accompagner?
Alors, Étienne Berny, qui vient d'être nommé au Temple du Salin, qui rejoint l'équipe des organistes de ce beau lieu de la musique. Il est passé dans les classes du Conservatoire de Toulouse et il nous accompagne depuis un petit moment déjà. C'est lui qui est notamment chargé de coordonner l'orchestre de la Scola, l'orchestre l'orchestre baroque de la Scola.
Alors vous allez être accompagné pour certaines œuvres par d'autres instrumentistes, on peut les citer aussi bien sûr.
Oui, oui, totalement. Alors on aura une harpiste, on aura une oboïste, tout à fait, j'essaie de me rappeler. Et c'est tout ce qu'on aura cette fois-ci. Alors on a fait le choix d'avoir un appareil un petit peu dépouillé, notamment sur la harpe. Alors ça peut surprendre, notamment sur les concerts de Noël, mais là encore, chez les Anglais, c'est assez typique, notamment chez Britten, qui lui a dédié tout un concert de Noël, tous ces carols de Britten, qui sont sur cette joie, sur ce côté à la fois récité, on a un peu l'aspect lyrique, bien sûr, avec la harpe, et en même temps, si accompagnateur naturel des chœurs qui donne quelque chose de très aérien, très joyeux, et là, bien sûr, ça rejoint le savoir-faire britannique, et notamment des chœurs d'enfants.
Donc, je reviens sur le programme, nous aurons les chœurs de la première partie du Messie de Handel, plus l'Alléluia et le Amen final, je ne me trompe pas.
Eh bien oui, il fallait terminer en beauté quand même.
Quand même. C'est ce qui va conclure le concert.
C'est ce qui va conclure le concert, oui.
Donc, du chant grégorien, la suite instrumentale Fireworks du même Handel, les chants grégoriens de Noël, des chants anglais avec la maîtrise et une harpe, ce sera à ce moment-là.
Absolument.
Et puis, concernant Benjamin Britten, deux œuvres, A New Year Carol et This Little Babe.
Tout à fait. Extrêmement virtuose, extrêmement jubilatoire. Vous avez, alors c'est pas tellement une fugue, mais vous avez les voix qui vont se courir les unes après les autres. Alors, le thème est d'abord donné tout seul, tout nu, si j'ose dire. Puis après, à deux, ils se poursuivent comme un canon un petit peu frénétique. Et enfin, un troisième, très virtuose, très technique, mais extrêmement jubilatoire.
Et puis, nous avons aussi, alors là, c'est un contemporain, John Rutter.
Le patron.
Très, 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 très chanté de l'autre côté en outre, de la Manche, hein, bien sûr. Deux heures également.
Oui, tout à fait. Bon, John Rutter, c'est, je disais à l'instant, le patron. C'est effectivement aujourd'hui celui qui représente l'imaginaire qu'on a autour des chœurs anglais. Lui, évidemment, c'est un arrangeur de génie. Alors, quand on pense à ces fameux carols britanniques, il faut savoir que tout anglais qui se respecte peut les chanter, en fait, peut les siffloter. Ce sont des choses qui ne sont pas perdues depuis des siècles, en fait. Et chaque grand compositeur, chaque grand maître de chapelle y va de son arrangement. Tout le monde y a un peu mis sa patte. Et évidemment, les harmonisations de Rutter font figure de cas d'école et sont encore aujourd'hui savourées partout dans le monde.
Une question très pratique pour conclure. Est-ce qu'il reste des places pour ce concert ?
Il reste des places. Donc, vous pouvez aller les prendre sur le site de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Cernin. Vous tapez simplement Schola Saint-Cernin. Vous avez un onglet concert. Et là, vous pouvez prendre vos places pour le concert de samedi.
Eh bien, voilà, tout est dit. Alors, un autre extrait de ce programme de Noël anglais pour que nos auditeurs puissent se faire une idée de ce qu'ils vont y entendre. Il s'agit de Angel's Carol de John Rutter.
Christ the Lord is here. Have you heard?
que c'est beau cette Angel's Carol de John Rutter, l'une des pièces au programme du concert Noël anglais donné par les chœurs de la Scola Saint-Cernin samedi 13 décembre à 20h30 à la Basilique Saint-Cernin. Il reste des places, alors profitez-en. Il y a 3 autres concerts d'ici notre prochaine émission, à commencer par celui que nous vous annoncions au début de ce numéro, le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole avec la mezzo-soprano Marianne Crébassa, qui est française et même originaire de notre région, de l'Hérault, de la ville d'Agde pour être précis. Ce concert a lieu ce jeudi 11 décembre à 20h à la Halle aux Grains et il est dirigé par le chef espagnol Roberto Forés Vesès. Serge, quelles œuvres sont au programme?
Alors, 3 œuvres très différentes, avec tout d'abord une création au moins à Toulouse qui s'appelle Mosaïques et qui est signée d'une compositrice finlandaise qui s'appelle Outi Tarkiainen, qui est née en 1985, donc une jeune compositrice.
Oui, une quarantaine d'années. Non ?
Et alors, c'est intéressant parce que c'est une œuvre qui est inspirée par un projet collaboratif lié au changement climatique. C'est vraiment d'actualité, on peut dire. Hein. Ça, c'est la première œuvre. La deuxième œuvre, qui sera chantée donc, par la grande Marianne Crébassa, une grande mezzo-soprano, formidable musicienne.
Oui.
Et elle va chanter les Kinder Toten Lieder de Gustav Mahler, cette œuvre bouleversante. Ça signifie chant sur la mort des enfants, cycle de 5 Lieder pour voix et orchestre, sur des poèmes de Friedrich Rückert à la suite de la mort d'un des deux enfants de Rückert. Mahler perdra également
sa
un
fille,
enfant.
Oui.
Donc c'est vraiment une œuvre maudite en quelque sorte. Hein. Et donc c'est une œuvre extraordinaire,
poignante.
D'une beauté, d'une profondeur magnifique. Donc là, il ne faut pas rater cette exécution-là. Et puis le concert s'achèvera avec la symphonie numéro 5. De Jean Sibelius, une magnifique symphonie qu'il a composée entre 1914 et 1919 et qui évoque un peu les bouleversements du monde. Donc, un programme lourd, hein, sérieux.
Oui, tout à fait, mais magnifique. Et dans ce magnifique programme, il y a la symphonie numéro 5 de Jean Sibelius. Nous allons pouvoir écouter son troisième mouvement, Allegro Molto, dans une version du Berliner Philharmoniker dirigé par Herbert von Karajan. Thank you. majestueux troisième mouvement Allegro Molto de la superbe symphonie numéro 5 de Sibelius dans une version du Berliner Philharmoniker dirigée par Herbert von Karajan. C'est une des œuvres au programme du concert de l'Orchestre National du Capitole ce jeudi 11 décembre à la Halle aux Grains. Un autre beau rendez-vous est prévu lundi 15 décembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Celui-ci donné dans le cadre du cycle des grands interprètes, le concert du duo formé par les guitaristes Thibaut Garcia et Antoine Morinière. Ils vont donner pour la première fois à Toulouse leur version des variations Goldberg, encore elle, de Jean-Sébastien Bach, transcrite pour deux guitares. C'est un événement, Serge, qui affiche malheureusement complet depuis longtemps.
Mais oui, évidemment, parce que la presque totalité des concerts des grands interprètes, c'est à la Halle aux Grains, évidemment. Et là, on ne pouvait pas donner ça à la Halle aux Grains, donc c'est donné à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Et c'est leur propre transcription des variations Goldberg. Et cette fois, c'est transcrit pour des cordes pincées, comme l'original qui est écrit pour clavecin à deux claviers. Donc, ils vont donner ce concert. C'est la seule œuvre au programme, évidemment. Il ne faut pas oublier qu'ils l'ont déjà enregistré. Et c'est un album qui est accueilli partout.
La critique est unanime.
Unanime,
vraiment,
c'est une pure merveille.
Quasi dithyrambique.
Ah oui, oui, absolument. C'est vraiment très proche de l'original. Hein.
Oui, oui.
Très,
très
proche.
C'est une merveille ce qu'ils ont fait.
C'est d'une grande beauté. Et donc, on est très heureux de pouvoir les accueillir et les applaudir dans ces 30 variations comprise entre l'aria et puis l'aria finale.
Voilà, donc, notre cher guitariste toulousain Thibaut Garcia et son vieil ami, surtout jeune tous les deux, mais vieil ami au sens où ils se connaissent depuis longtemps.
Oui,
ils étaient
oui,
au conservatoire
oui,
ensemble à
absolument,
Paris.
Absolument.
Et lui, il est bordelais, Antoine Morinière.
Oui.
Pour le plaisir, nous allons tout de même en écouter un extrait de ce superbe CD Thibaut Garcia et Antoine Morinière jouent la troisième des variations Goldberg. C'est une petite merveille ce CD, vous venez d'en avoir un aperçu avec cette troisième des variations Goldberg jouée par Thibaut Garcia et Antoine Morinière. Le duo de guitaristes est donc en concert le lundi 15 décembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines à l'invitation de la saison des grands interprètes. Mais hélas, déjà à guichet fermé ce concert, nous terminons notre agenda avec le deuxième concert de la saison des Arts Renaissants donné le mardi 16 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme de Toulouse par l'ensemble concert de l'Hôtel Dieu. Bien connu, on l'a souvent entendu dans la Ville Rose, neuf musiciens dirigés par le claveciniste Franck-Emmanuel Comte dans un programme Noël napolitain où ils vont accompagner une soprano et un mandoliniste que Serge va pouvoir nous présenter.
Et oui, la soprano est canadienne, elle s'appelle Heather Newhouse, elle sera la soliste de ce concert, en même temps que le mandoliniste Vincent Baird-Demander. Ils joueront et chanteront un programme qui comprend des extraits de cantates d'Alessandro Scarlatti, puis de Domenico Scarlatti, une sonate ou au moins un mouvement de sonate pour mandoline et continuo, et puis des tarentelles et des Noël populaires napolitains arrangés par le créateur et chef de l'ensemble, Franck-Emmanuel Comte. Donc un programme qu'on s'attend à entendre près de Noël. Donc.
Oui, très joyeux, très festif et bien dans l'esprit du temps. Voici un extrait de ce programme Noël napolitain donné par le concert de l'Hôtel-Dieu mardi 16 décembre à l'église Saint-Jérôme. C'est une tarentelle napolitaine arrangée par Franck-Emmanuel Comte. Tarentelle napolitaine arrangée par Franck-Emmanuel Comte, un extrait du programme Noël napolitain que donne le concert de l'Hôtel Dieu, la soprano Heather Newhouse et le mandoliniste Vincent Baird de Mandaire, mardi 16 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme pour le deuxième rendez-vous de la saison 25-26 des Arts Renaissants. La billetterie est en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. Le duo Thibaut Garcia-Antoine Morinière donne sa version des variations Goldberg, transcrite pour deux guitares, le lundi 15 décembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, dans le cadre de la saison des grands interprètes. Ce concert est annoncé complet, mais vous pouvez éventuellement tenter votre chance en vous connectant au site www.grandsinterprètes.com. L'Orchestre National du Capitole et la mezzo-soprano Marianne Crébassa sont eux en concert ce jeudi 11 décembre à 20h à la Halle au Grain, sous la direction de Roberto Forest-Vesses. Vous pouvez acheter vos places en ligne en vous connectant au site www.onct.toulouse.fr. Et je rappelle enfin que la Scola Saint-Cernin de Jean Percy donne son concert Noël anglais samedi 13 décembre à 20h30 à la Basilique Saint-Cernin. Je vous invite à acheter et réserver vos places en ligne en vous connectant au site www.scola-saint-cernin.com. Je remercie chaleureusement Serge Ozy et Jean Percy d'avoir été les invités de cette émission. Merci également à Coraline Camebrac à la réalisation. Le podcast est téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et je remercie aussi ceux et celles qui étaient à notre écoute aujourd'hui. Excellente semaine musicale à tous. Thank you.